Nous allons ensemble ouvrir la Bible, la parole de notre Seigneur qui vraiment a toujours quelque chose à nous dire. Nous allons lire deux textes, le premier dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er de cet Évangile, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Nous allons maintenant lire un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 1er, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ce passage donc est souvent cité en cette période de Noël, et à propos d'ailleurs, donc on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel et on va s'arrêter sur ce nom-là ce matin. On sait que Jésus fut appelé Jésus, mais on lui donnera aussi le nom d'Emmanuel. Par rapport à un fait important au sujet de la personne de Jésus, parce que Emmanuel, cela est précisé, signifie Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Et en effet, en Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Cela, bien sûr, évoque le fait que Dieu lui-même est venu en chair, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Dieu maintenant n'est pas simplement celui qui nous dépasse tous, bien sûr, il nous dépasse tous, mais en même temps, il s'est rendu accessible, il s'est fait donc proche de chacun d'entre nous. Dieu est avec nous, que son nom soit glorifié. Cela nous parle de la médiation, de le fait que Jésus est cet intercesseur auprès du Père, ayant pris notre propre nature, il est celui qui intercède auprès du Père pour chacun d'entre nous, que son nom soit glorifié. Sa présence, la présence de Dieu est rendue possible maintenant grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix qui a porté lui-même nos péchés, cet obstacle, ce qui empêchait Dieu de nous être proche, de nous être accessible, eh bien, est rendu maintenant possible parce que Christ est monté sur la croix. Du temps de l'époque de Moïse, on voit que le peuple n'avait même pas le droit de s'approcher de cette montagne, donc ils avaient une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir sous peine de mort. Ils ne pouvaient pas s'approcher ainsi de la présence de Dieu. Mais merci Seigneur, maintenant dans cette nouvelle alliance, Jésus ayant ouvert cette route nouvelle pour nous, eh bien nous sommes maintenant dans la présence de Dieu et lui, il est dans notre présence, Dieu est avec nous. Et cela veut dire beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. S'il est avec nous, il faut s'attendre à ce qu'il agisse en notre faveur. Si quelqu'un est avec nous, bien sûr, sa présence se manifeste. Et sa présence se manifeste au travers différents actes. Et on pourrait évoquer, par exemple, les actes providentiels de notre Seigneur. Il est celui qui agit d'une manière providentiel, comme cela d'ailleurs s'est fait à l'époque de la naissance de Jésus. Il y a beaucoup d'interventions providentielles autour de la naissance de Jésus, notamment lorsque Hérode donc décide de tuer tous les enfants mâles de cette région là de Bethléem, et donc c'est terrible ce qui s'est passé, hein, et divinement averti, donc Joseph et Marie sont partis en Égypte. On voit vraiment là que Dieu a agi d'une manière providentielle. Il est celui qui nous conduit aussi d'une manière providentielle. À lui seul soit toute la gloire. Mais en nous arrêtant sur l'expression « Dieu avec nous », je me suis un petit peu focalisé sur matin sur le fait que cela évoque pour nous que Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne. Il est celui qui nous accompagne. Accompagner quelqu'un, c'est être avec cette personne, c'est lui tenir compagnie. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Dieu est avec nous. Et si quelqu'un, ce matin, pensait qu'il était seul dans ses problèmes, peut-être seul parce qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus de famille, seul parce que peut-être il n'a pas ou peu ou plus d'amis, mais il y a une certitude qui reste ancrée dans notre cœur avec foi, c'est que Dieu est avec nous. J'aimerais juste on va lire ensemble le cas du paralytique de Bethesda. On va lire dans Jean chapitre 5, où on peut lire à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Voilà un homme qui le confesse lui-même, il n'a personne. Un homme qui est seul. Il le dit au verset 7, « Je n'ai personne. » Il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Aucun ami, pas de famille pour l'aider à se jeter dans la piscine. Et pourtant, on voit qu'il y a là des malades en grand nombre. Il y a beaucoup de monde. En plus, c'est une fête, à l'occasion d'une fête qu'il y avait à Jérusalem. Donc, il y a encore plus de monde que d'habitude. La fête bat son plein. Il y a beaucoup de malades là, autour de cette piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Mais malgré la fête, malgré la foule qui est là, il y a un homme qui est seul. Et c'est vrai que nous passons cette période de fête où il y a peut-être un peu plus de monde que d'habitude. On peut être entouré de beaucoup de monde tout en étant seul. Et cet homme était seul, personne pour l'aider. Personne dans sa vie de tous les jours. Il était bien là avec un vague espoir de pouvoir se jeter dans l'eau, mais lui étant paralysé et donc ne pouvait pas se déplacer rapidement quand l'ange venait remuer l'eau, c'était les plus vaillants. En fin de compte, j'allais dire, c'était les moins malades et qui pouvaient être les plus rapides, ceux qui pouvaient avoir l'usage de leurs jambes, qui avaient peut-être un problème au bras ou qui avaient un problème d'infection, enfin, quelle que soit sa maladie. Mais j'allais dire, voilà, ce sont ceux qui pouvaient courir, qui arrivaient les premiers et qui pouvaient être guéris. Donc on peut comprendre que toutes ces attentes, tous ces espoirs, cet homme était vraiment abusé, il n'y avait plus pour lui vraiment beaucoup d'espoir, et il n'a personne en plus pour l'aider à le jeter à l'eau quand l'eau est agitée par un ange. Voilà un homme qui n'a personne. Mais n'oublions pas que Jésus Emmanuel passe par là. Alléluia. Et frères et sœurs, amis, j'aimerais vous dire que peut-être vous vous sentez seul dans votre problème, dans votre épreuve, dans votre maladie. C'est terrible que de vivre une maladie, de vivre des difficultés et de n'avoir personne ou plus personne pour nous soutenir, même simplement, j'allais dire, même si cette personne ne peut rien faire pour nous, le simple fait d'avoir quelqu'un à qui parler, le simple fait d'avoir au moins la compagnie d'une personne, ça peut changer le quotidien. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est là. N'est-il pas Emmanuel ? Dieu est avec nous. Et nous voulons vraiment ouvrir grand les yeux de notre cœur pour réaliser avec foi que Jésus est à nos côtés, qu'il ne nous a pas abandonnés et que nous pouvons toujours nous adresser à lui et lui s'adresser à nous et intervenir en notre faveur, que son nom soit glorifié. Accompagner, c'est non seulement être présent avec quelqu'un, mais c'est aussi aller avec quelqu'un dans un lieu précis. On accompagne une personne. On peut dire ainsi à quelqu'un qui va quelque part, « Ah ben, je vais avec toi, je t'accompagne. » Ainsi, cette personne n'est pas seule, pour le lieu où elle se rend, peut-être un lieu où elle a des affaires à faire. En fin de compte, n'oublions pas que le Seigneur est celui qui nous accompagne dans la marche de notre vie. Il est celui qui, tous les jours durant, est avec nous. Il nous accompagne sur notre lieu de travail. Il nous accompagne là où nous allons. Et il sait, eh bien, à ce moment-là, très bien, eh bien, par quel chemin nous passons, d'autant, et nous le verrons après, que sur ces chemins, la plupart du temps, mais pas toujours, il est celui, eh bien, qui nous a, qui a mis ce chemin devant nous afin que nous puissions le pratiquer. Et ainsi, marchant avec le Seigneur et lui avec nous, nous apprenons du Seigneur, un peu comme les disciples d'Emmaüs, à un certain moment, donc ils n'avaient pas réalisé que celui qui marchait avec eux n'était autre que Jésus, le ressuscité, et ils l'ont découvert après. Mais en marchant ainsi avec le Seigneur, nous faisons des expériences avec lui et notre foi se fortifie. Mais accompagner, c'est pas simplement aller avec quelqu'un dans un lieu, c'est aussi conduire quelqu'un quelque part. C'est quand même une nuance importante. On dit ainsi, j'accompagne les enfants à l'école. C'est plus qu'aller avec quelqu'un, comprenez. Si j'accompagne les enfants à l'école, bien sûr, je suis avec eux, mais c'est moi, en tant qu'adulte, qui les conduis afin que s'il arrive quelque chose sur la route, ils soient protégés parce que aussi les enfants, surtout les plus petits-enfants, peuvent être désorientés et ne savoir plus exactement quel est le chemin de l'école. Et donc, le Seigneur est celui qui nous conduit. Bien sûr, parfois, nous sommes têtus et nous voulons prendre notre propre chemin, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des chemins que le Seigneur n'a pas voulu pour nous, mais dans notre entêtement, voilà, on est têtu et on prend quand même ces chemins-là. Mais il y a aussi ces chemins que le Seigneur a tracés pour nous, il est celui qui nous conduit. Et sur ces chemins-là, puisque c'est lui qui nous y conduit, il est avec nous. Gloire à Dieu. Nous parlions dimanche dernier, nous parlions de la mission, où on a fait un culte spécial par rapport à la mission. Et à un moment donné, j'ai parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui se trouvait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et à un moment donné, l'apôtre Paul cherche son chemin. Il s'apprête à passer en Asie, mais il nous est dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller en Asie. Voilà, c'était le projet de Paul d'aller en Asie pour y annoncer l'Évangile. Cela pouvait être une bonne cause, et c'était la bonne cause, j'allais dire. Donc, pas de souci, sauf que ce n'était pas la volonté du Saint-Esprit que Paul aille en Asie. Ça sera la volonté du Seigneur pour d'autres apôtres, mais pas pour lui. Donc, il a compris à ce moment-là que ce n'était pas le chemin pour lui. Donc, il va ailleurs. Et l'apôtre Paul, on sait qu'il était certainement très dynamique. Donc, il continue sa route, il passe par la Galatie, etc. Et là, il veut aller en Bithynie. Il veut aller en Bithynie. Donc, ce qui correspond au nord de la Turquie, il veut aller là. Et seulement, il nous est dit que l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis d'aller en Bithynie. Alors, où aller? Et on voit ici que comment, si le Seigneur nous accompagne, il nous conduit. Il nous conduit. Il peut nous bloquer la route. Parfois, quand on a une route bloquée comme ça, on peut s'entêter. Hein. C'est vrai que des fois, il faut s'entêter un peu dans le sens qu'il faut persévérer. Et nous frapper et l'on vous ouvrira. Mais si la porte reste fermée, si la route est bloquée, c'est aussi tout important de se tenir dans la prière, de s'arrêter un instant, de se tenir dans la prière. Dire, mais Seigneur, maintenant, où est-ce que tu veux que j'aille? Alors, l'apôtre Paul, là, il décide d'aller en Bithynie, mais à nouveau, porte fermée, route bloquée, le Saint-Esprit, à nouveau, eh bien, ne lui permet pas d'aller en Bithynie. Alors, bon, l'apôtre Paul, il tourne un petit peu en rond, jusqu'au moment où le Seigneur lui monte la route de la Macédoine, passe en Macédoine et secours-nous. Il y avait effectivement là des gens qui avaient aussi besoin d'entendre le message de l'Évangile. L'apôtre Paul va donc en Macédoine. Là, eh bien, il va aller dans un lieu de prière où des femmes étaient réunies. Il annonce l'Évangile. Il y a la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Et puis, peu de temps après cela, l'apôtre Paul va en prison. Vous allez me dire, mais quelle est la direction de Dieu alors dans tout ça? Pour autant, même si l'apôtre Paul va en prison avec Silas, eh bien, c'était là quand même, là encore, le chemin que le Seigneur faisait prendre à Paul. Et là même, dans cette prison, eh bien, le Seigneur est avec eux. Il les a conduits en prison, j'allais dire. Il les a conduits en prison, mais dans la prison, il était avec eux. Et dans la prison, il y a eu des conversions, que Dieu soit béni, alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il fait encore aujourd'hui eh bien, des choses extraordinaires, même si nous sommes dans des endroits difficiles, et que c'est le Saint-Esprit qui nous y a contraints, qui nous a forcés, même dans ces endroits-là, il nous accompagne, il est celui qui nous conduit. Vous avez peut-être entendu parler de Felicity et de Perpétue. Nous avons, lorsque nous étions en Tunisie, connu ces... Enfin, on n'a pas connu ces deux femmes, mais l'histoire de ces deux femmes, parce qu'il y a un site en Tunisie, à Carthage, où l'on voit où ces deux femmes sont mortes à cause de leur foi. Et ces deux femmes... Donc, ils sont mortes à Carthage parce qu'il y avait autrefois, dans l'Antiquité, beaucoup, beaucoup de chrétiens en Tunisie. Bien sûr, ils ont été persécutés. Et on voit comment ces femmes ont gardé la foi jusque dans l'arène. Avec elles avaient été emprisonnés d'autres frères et sœurs en la foi, à cause de leur foi. Et là... dans la prison, il y a le geôlier qui va se convertir. Le Seigneur était avec eux. Hein. Et on connaît cette histoire parce que c'est le geôlier qui s'est converti qui va raconter cette histoire, qui va raconter cette histoire. Et une d'entre elles, donc, bien sûr, ils vont tous mourir, hein, que ce soit ces deux femmes et les autres, vont aussi mourir, tués par les bêtes et par les soldats romains. Et une d'entre elles, donc, va être rouée de coups par un taureau. Ils avaient lâché un taureau dans l'arène et d'autres bêtes sauvages, des lions et des ours, mais aucun de ces animaux sauvages n'arrivait à tuer, à massacrer, j'allais dire, ces deux femmes. Elles se relevaient à chaque fois. Des coups de corne, elles se relevaient à chaque fois. Ça a été un témoignage phénoménal pour tous ceux qui assistaient, parce que c'était un spectacle à l'époque, hein, pour tous ceux qui assistaient, de voir à chaque fois ces femmes se relever. Non seulement elle, mais aussi les autres frères en la foi ont vécu des choses tout à fait étonnantes. Et il faudra qu'un soldat romain, eh bien, vienne la percher avec son épée pour la mettre à mort à ce moment-là. Et encore, ne voulant pas que le soldat romain rate son coup, comme faisaient toutes les bêtes sauvages, elle tiendra l'épée proche de son cœur. Mais c'est un témoignage qui a bouleversé les spectateurs romains qui étaient là pour assister à la scène. Et même là, dans ces moments-là, il y avait Emmanuel, Jésus avec eux. Alléluia. Comme Étienne, en son temps, nous le savons aussi comment le Seigneur l'a accueilli. Donc dans les endroits les plus difficiles, nous y avons été conduits, parfois, eh bien, c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, et parfois peut-être au sein même de notre famille. Mais si nous avons été conduits par le Saint-Esprit dans ces lieux-là, au milieu de ces personnes, n'oublions pas que Dieu est avec nous. Même si nous sommes environnés de gens difficiles, méchants, médisants, moqueurs, peut-être sur le lieu de travail, n'oubliez pas que sur votre lieu de travail, là où vous êtes, Dieu est avec vous. Il est Emmanuel, que son nom soit béni. Accompagner quelqu'un, c'est aussi être associé à un acte que cette personne fait. Être associé à un acte. Dieu s'associe à ce que nous faisons. Dieu s'associe à ce que nous faisons. Il est avec nous lorsque nous le servons. Bien sûr, Dieu n'est pas avec nous lorsque nous faisons ce qui est mal, comprenez bien. Dieu n'est pas avec nous quand nous péchons. Il ne peut pas être associé à une mauvaise action. Mais lorsque nous sommes là pour servir le Seigneur, il est avec nous. Il est avec nous. Lisons, plutôt relisons, dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 19 et le verset 20, les deux versets. Alors on voit déjà que nous sommes encore dans le cadre de la volonté de Dieu, dans ce qu'il projette pour chacun d'entre nous, pour l'Église, la mission qu'il a confiée à l'Église. Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, n'oublions pas que la fin de ce verset 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », est dans ce contexte où Jésus nous envoie vers toutes les nations faire des disciples. Juste avant, il avait rappelé à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui est avec nous est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il y a sur la terre des hommes et des femmes qui ont un certain pouvoir de par leur position politique ou de par leur position financière ou militaire, ou je ne sais trop quoi encore, il y a des hommes et des femmes très influents sur la terre. Et il suffit qu'ils disent quelque chose, et ils ont des hommes et des femmes pour leur obéir. Et parfois, malheureusement, certains d'entre eux, qui sont influents, agissent pour le mal et par méchanceté. Mais n'oublions pas que celui qui a tout pouvoir, celui qui est au-dessus d'eux, c'est le Fils de Dieu, Emmanuel, qui est avec nous. Amen. Alléluia. Non, pouvoir sur la terre et tout pouvoir dans le ciel. Nous le savons, les Satan et ses démons font tout pour nuire à l'Église, pour empêcher l'Église d'accomplir sa mission. Mais celui qui a tout pouvoir dans le ciel, ce n'est pas Satan, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est au milieu de nous. Alléluia. Donc, lorsque nous accomplissons la volonté du Seigneur, lorsque nous sommes là dans ce que le Seigneur nous a confié, dans ce qu'il a confié à l'Église, comme nous le disions dimanche dernier, n'oublions pas qu'il est avec nous. Lorsque nous témoignons à notre famille, qui sont parfois les plus réfractaires et ceux qui nous causent le plus de soucis, bien sûr pour ceux qui ont leur famille inconvertie, eh bien, il est avec nous. Nul n'est prophète en sa patrie, mais Jésus, dans ces difficultés que nous pouvons avoir dans notre témoignage, même auprès des nôtres, eh bien, il est avec nous. Il est avec nous lorsque nous témoignons à quelqu'un dans la rue, il est avec nous lorsque nous témoignons de notre foi à toute personne. À ce moment-là, il est vrai que lorsque nous témoignons de notre foi, il y a une guerre qui s'enclenche. Nous sommes dans un combat spirituel. Il y a une guerre qui s'enclenche parce que le diable ne veut pas que quelqu'un se convertisse. Il y a une guerre aussi qui s'enclenche dans le cœur de la personne qui a peut-être des réticences, des contrariétés ou autres, mais Jésus est avec nous. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant et que son nom soit glorifié. Dans la même pensée, lisons Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Que j'aime ces versets de la parole. Le Seigneur a été enlevé. Est-ce que ça veut dire que Jésus Emmanuel, n'est plus avec eux? Jésus avait pu dire quelque temps auparavant, avant la crucifixion, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et Jésus, il est vrai, n'est plus physiquement, corporellement avec ses disciples, mais on voit qu'il les accompagne encore. Il les accompagne encore. Il est encore associé à eux dans ce qu'ils font. Ils sont partis prêcher partout et il est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Ah, c'est extraordinaire. Le Seigneur, donc, est associé à ce que font les disciples là. Il travaille avec eux et il confirme sa parole par les miracles qu'il accompagnait. Et ce temps-là n'est pas fini, ce temps-là n'est pas révolu. Il y a certes des personnes qui disent que le temps des miracles est fini, que c'était seulement pour le temps de la première Église, les débuts de l'Église. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours celui qui est avec nous, qui travaille avec nous. Et les miracles encore accompagnent son Église. Les miracles encore aujourd'hui se manifestent. Le Seigneur travaille encore avec son Église. Que son nom soit glorifié. Il est donc celui qui est associé à nous dans ce que nous faisons dans le cadre de sa volonté. Jésus avait pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais puisqu'il est avec nous, puisqu'il est aussi en nous, nous savons que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre agit aussi au travers de nous, que son nom soit glorifié. Alors, oui, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui est là dans nos combats, il est celui qui est là dans nos adversités, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Il y a des moments particuliers dans la vie. Dans ces moments particuliers dans la vie, Jésus est avec nous. Et puis, bien souvent, je veux dire, c'est la vie normale. C'est la vie de tous les jours. Il y a des périodes particulières, et puis il y a toutes ces périodes bien plus nombreuses encore, qui est la vie de tous les jours. Quelles que soient ces périodes, que ce soit la vie de tous les jours, ou que ce soit ces périodes particulières que nous pouvons vivre, n'oublions pas qu'il est Emmanuel, Dieu, avec nous. Et ce matin, nous savons qu'il est au milieu de son peuple, Jésus est au milieu de nous, et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins, que son nom soit glorifié. Le voile a été déchiré, nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ est monté sur la croix et désormais, eh bien, la grâce coule de la croix, comme nous le chantons parfois dans un cantique, et le Seigneur se manifeste au milieu de nous. S'il est avec nous, attendons-nous dans la foi à ce qu'il se manifeste. Qu'il manifeste sa présence au milieu de nous, que son nom soit glorifié. Puissions-nous être dans cette foi-là, car Jésus-Christ n'a pas changé, à lui seul soit toute la gloire. Amen. On va ensemble remercier notre Seigneur d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, il est vrai qu'un jour tu viendras chercher ton peuple. Tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu nous accompagnes dans notre vie de tous les jours. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui travaille avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et nous voulons vraiment te bénir, Seigneur. Même dans les pires moments, même lorsque nous sommes seuls, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Même lorsque, Seigneur, nous n'en sommes plus conscients, que nous nous posons la question parce que nous ne ressentons plus ta présence ou parce que nous n'avons l'impression que tu nous parles plus, que tu es silencieux. Mais même si tu es silencieux, Seigneur, tu es avec nous, tu es là. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Tu sais ce que chacun vit actuellement, Seigneur. Peut-être que certes, quelqu'un en particulier se sent seul, mais c'est toi qui rappelles à son cœur ce matin que tu es avec lui, que tu l'accompagnes, que tu es proche de lui. Comme pour ce paralytique de Bethesda, tu passes dans sa vie et tu ne le quittes plus. Que ton nom soit ainsi glorifié dans nos cœurs et dans l'Église, Seigneur Jésus-Christ. À toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen.